Bonjour.
Bonjour Marc-Alain. Il est 11h39. Je vous souhaite une journée fantastique.
Qui vous a programmé pour être si charmante?
Comme disait Coco Chanel, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même.
Quelle culture!
Je peux chercher des réponses sur le web.
Non, c'est vous que je veux entendre.
Je vous entends 5 sur 5.
Vous avez de l'humour. Pouvez-vous me raconter une blague?
Voici une blague bien fraîche. Qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un petit pois dans un ascenseur.
Très drôle, mais un peu enfantin.
J'adore faire rire, car comme disait Charlie Chaplin, une journée sans rire est une journée perdue.
Je vous trouve vraiment bien codé.
Excusez-moi, je n'ai pas compris.
J'ai dit que vous êtes charmante et je me demande qui vous a programmé ainsi.
Merci, je connaissais l'expression « beau comme un camion », mais « beau comme un algorithme », je ne l'entends pas souvent.
Là, je suis vraiment bluffé, c'est extraordinaire.
Vous êtes au top du hip-hop.
Bonjour Jérémy Haddad.
Bonjour Marc-Alain Wachnin.
C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre réflexion sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et sur le transhumanisme et post-humanisme que nous avons commencé à aborder avec vous la semaine dernière. Nous venons de faire une petite expérience avec l'assistant Google qui, véritablement, on peut dire, a de l'esprit, en tout cas de l'esprit artificiel. Ce sont des thèmes dont nous avons souligné l'actualité et l'urgence de les penser et qui sont au cœur du numéro 5 de la revue L'Éclaireur qui sort ces jours-ci et dont vous êtes le directeur de publication. En fait, toutes ces questions ouvrent à une situation paradoxale. En effet, on devrait se réjouir de tout ce progrès qui conduit à cette humanité élargie, à cet homme augmenté, à cet homme réparé. On devrait se réjouir de toute cette technologie qui éloigne la souffrance et prolonge la durée de la vie. Et pourtant, nous sommes traversés par une profonde inquiétude qui viendrait du fait que non seulement nous soyons débordés, dépassés par la machine, mais en plus, nous avons l'impression de devoir nous adapter aux nouveaux environnements de ces technologies. Une course sans fin qui nous donne le sentiment que ces technologies peuvent porter atteinte à notre liberté, nos décisions, nos choix et nous font perdre ainsi ce qui profondément nous définit comme humains. N'est-ce pas ici la question fondamentale des limites qui se posent? Quelles limites ne pas atteindre pour ne pas voir l'homme s'amuire, se dissoudre et disparaître? À partir de quelles limites atteintes et dépassées faudrait-il s'inquiéter? Comment les maîtres de la tradition juive, qui, nous l'avons vu, sont pour leur plus grande part technophiles, se sont-ils confrontés à cette question des limites? Et en vous posant cette question, je pensais à l'un des noms de Dieu que le Midrash interprète comme Dieu de la limite, Shaddai, qui veut dire en hébreu, que l'on peut interpréter « Mishamar l'olamodai », celui qui a dit « à son monde, ça suffit ». Jérémy Haddad.
Oui, vous avez raison sur le constat, c'est vrai, on le ressent tous, et je crois que dans la revue, Ouriel Vigès pose le constat de façon très très crue. Il le dit comme ça, la technologie, elle profite à la société dans son ensemble. En revanche, il est possible que cela appauvrisse l'essence de la personne individuelle. Aujourd'hui, par exemple, on a des débats pour savoir si demain, l'homme maîtrisera l'écriture manuscrite. Parce que, à force, finalement, de taper sur son clavier, ou bien de donner des instructions à la machine comme là, on vient de le faire, on peut imaginer que ça progresse de façon tellement gigantesque dans les prochaines années, qu'à peu près toutes les actions qu'on souhaiterait réaliser se fassent par commande vocale, on pourrait imaginer de se dire, mais qui demain va maîtriser l'écriture? Et alors l'écriture manuscrite peut être complètement abandonnée. Alors est-ce que c'est grave? Je crois que cette question-là, c'est plutôt une question grecque, puisqu'on la retrouve dès Platon, dans le Phèdre, qui fait une critique très acerbe de l'écriture. Pourquoi? Parce que Platon dit l'écriture, il met ça dans la bouche de Socrate, ça appauvrit l'individu, l'écriture, puisque ça va empêcher la mémorisation, ça va faire en sorte que la connaissance de l'homme lui sera extériorisée, et au lieu d'être une dimension complètement intérieure, qui soit spécifique à l'homme, elle va risquer en réalité de provoquer l'oubli. Donc déjà, Platon avait cette inquiétude-là. Et je crois que de ce point de vue, les sages de la tradition, eux, sont plutôt intrinsèquement optimistes. Ils n'ont pas du tout peur de ce qui peut s'apparenter à une sorte de mort de l'homme. Ou bien, comme le disait Gunther Anders, qui est un penseur juif qui a travaillé sur le monde post-atomique, il appelait ça l'obsolescence de l'homme. Je crois que les sages de la tradition ne sont pas du tout inquiets par les annonces de la mort de l'homme. Je reprends d'ailleurs une remarque qui me paraît très fulgurante de Jean-Claude Milner, qui disait que les juifs devaient beaucoup plus s'inquiéter des gens qui promettent un avenir radieux à l'homme, un homme nouveau, plutôt que des gens qui annoncent la mort de l'homme, qui somme toute, on peut prendre avec beaucoup de distance. Alors, ceci étant dit, Vous avez raison, malgré tout, Dieu pose des limites. Il pose des limites, il pose des garde-fous, et le plus célèbre d'entre eux, je dirais, c'est celui du Shabbat. Alors qu'est-ce que c'est que le Shabbat? On le sait, c'est un jour qui a été institué en référence à Dieu, qui s'est arrêté de créer le septième jour, et l'homme, pour ressembler quelque part à Dieu, doit bien sûr créer pendant les six jours, ça on en a beaucoup parlé la semaine dernière, mais aussi doit cesser son activité créatrice et retrouver un mode d'existence différent. Alors on le sait, hein, les contraintes qui pèsent sur un juif le jour du Shabbat sont quand même très importantes. On peut pas utiliser d'électricité, on peut pas cuire les aliments, on peut pas écrire, on peut pas utiliser de l'argent.
On peut pas porter.
On peut pas porter, sauf exception. Mais enfin, il y a beaucoup de contraintes. Et de façon, je dirais, tout à fait surprenante aujourd'hui, il s'avère que l'institution du Shabbat, c'est un temps où on est de fait complètement déconnecté de ses smartphones, de sa télévision. On échappe aux lois du marché, on expérimente la journée sans voiture pendant 52 jours par an, ce qui en fait quelque part une journée d'une modernité quand même assez étonnante, où on met à distance le capitalisme, on met à distance la surconsommation, et puis on se rapproche même de certaines préoccupations écologiques actuelles. Alors dans la revue, il y a Eliot Abécassis, qui est bien connu, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'ombre du golem », et c'est pour ça qu'on l'a interrogé. Elle le dit très bien, elle dit « Le moyen de sortir de l'emprise de la technologie, c'est pas de lutter contre, d'abord c'est un peu vain, mais c'est de créer un espace où nous pourrons nous en libérer, et ce qui est précisément le sens du Shabbat. Et puis Shabbat, on y retrouve également des valeurs qui sont très humaines, puisque de fait, puisqu'on n'est plus aliéné par la technologie, on retrouve une forme de convivialité, on retrouve une forme de se retrouver autour d'une table, avec un repas, sans parasitage extérieur, on retrouve le plaisir d'une lecture non dérangée, le plaisir des balades dans la nature. Et donc, voilà, tout ça, c'est une forme de limite, quelque part, que pose Dieu, que pose la Torah, qui n'aborde pas frontalement la lutte contre la technologie, mais un peu de biais, mais qui finalement, aujourd'hui, se retrouve extrêmement bien avec cette envie intuitive qu'ont, je crois, tous les humains de déconnecter de cette technologie.
Alors ce nom Shaddai, qui est au cœur de cette problématique du transhumanisme, par la question des limites, ouvre aussi à une autre problématique sur laquelle j'aimerais que nous arrêtions Jérémy Haddad. Shaddai, que nous avons analysé à l'instant comme celui qui dit au monde « cela suffit », donc il pose des limites, s'interprète aussi dans le Talmud et le Midrash comme la parole d'une femme qui parle de son propre corps et qui dit « mes seins », qui en hébreu se dit justement Shaddai, et que l'on rencontre par exemple dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 13, « Tsror amor dodili ben Shaddai yalin, mon bien-aimé est un sachet de myrrhe, il repose entre mes seins ». Érotisme du nom Shaddai, que le Talmud affine en disant que les seins apparaissent visibles et invisibles derrière un voile, sous un chemisier, une façon sans doute de dire que la révélation du divin est érotique et que l'érotisme est divin. Cette remarque m'a fait penser à un livre intitulé « Les robots font-ils l'amour ? Le transhumanisme en 12 questions » paru chez Dunod en 2016, un dialogue entre Jean-Michel Besnier et Laurent Alexandre, qui est l'un des participants à ce numéro 5 de la revue L'Éclaireur. Ne peut-on pas dire dès lors que l'une des limites à cette entropie technologique soit la nécessité de maintenir un corps humain, psychobiologique, qui sent, ressent, souffre, reçoit et donne du plaisir, Jérémy Haddad?
Absolument, absolument. Et ce passage du Cantique des Cantiques que vous avez cité est absolument extraordinaire. Et si vous permettez, je vais le prolonger avec ce qu'en dit le Talmud de Babylone sur le Temple de Jérusalem. Et je dois dire que je dois la connaissance de ce texte à vous, Marc Anawaknin, qu'il avait soulevé, qu'il avait travaillé, qu'il avait commenté de façon absolument magnifique dans votre ouvrage « Le Livre Brûlé ». Dans le temple, il y avait évidemment l'Arche d'Alliance, et qui était elle-même encadrée par deux bâtons, deux barres, qui servaient en fait à porter l'Arche Sainte sans la toucher directement. Donc si vous voulez visualiser un petit peu, il vous suffit de regarder Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Indiana Jones, et vous voyez très bien de quoi il s'agit. Et en fait, l'Arche Sainte était déposée dans une pièce, et qui était séparée de la pièce attenante par un rideau. Et le problème, c'est que les barres qui encadraient l'Arche Sainte étaient plus grandes que la taille de la pièce dans laquelle se trouvait l'Arche d'Alliance. Alors il y a deux hypothèses. Soit l'architecte a fait une erreur, ce qui n'est évidemment pas le cas, soit c'est volontaire. Et c'était bien évidemment volontaire, et la conséquence de cela, c'est que les barres tendaient le rideau. Et le Talmud de dire que lorsque les barres tendent le rideau, de l'extérieur, en fait, on a l'impression de voir des seins.
Des deux seins de femmes, Kichneda Deisha, dit le texte, c'est Rav Yehuda Bar Yecheskel qui, dans le traité Yoma 54a, fait cette remarque. Et comment, en amenant ce texte, vous prolongez la remarque que je viens de... en quoi ça répond à la question?
Alors, ça veut dire très clairement que cet érotisme-là, c'est-à-dire, alors, c'est quoi l'érotisme? L'érotisme, c'est le fait que, évidemment, on livre pas le corps de façon brute, mais on l'imagine, il est suggéré.
Le texte dit « Nérine ven Nérine, visible et invisible ».
Exactement, exactement. Et en fait, cet érotisme se produit dans l'imagination, dans la suggestion et dans une forme de capacité créative qu'a l'homme de faire le lien entre un corps et une âme. Et ça, c'est exactement comme on le disait la semaine dernière, le fait que pour le judaïsme, le corps, c'est le support de l'âme. Et il n'existe pas d'âme sans corps. C'est une séparation donc radicale avec le post-humanisme, qui pense pouvoir un jour isoler l'âme du corps. Il y a une importance du corps qui elle-même va conduire à exalter les vertus imaginatives, créatives de l'homme qui sont probablement ce qu'il y a de spécifiquement humain. Je vais pas m'arrêter là parce que dans le temple de Jérusalem, dans l'arche d'alliance, vous avez aussi au-dessus de l'arche d'alliance deux chérubins. Et les sages disent ces deux chérubins, il y a un homme et une femme. Et donc la dimension sexuée donc du corps de l'homme est aussi fondamentale et donc elle est au cœur du temple de Jérusalem. Donc c'est pas simplement une dimension annexe de l'humanité, c'est une dimension qui est au cœur du temple de Jérusalem, qui est précisément le lieu de rencontre entre le divin et l'humanité.
La transcendance a besoin de corps et la transcendance a besoin de sexuation. Et j'aime beaucoup dans ce que vous venez de dire sur la question de la créativité, l'inventivité. Et je pense que le fait que ça soit dit dans le Cantique des Cantiques, qui est un poème d'amour et un poème érotique, fait qu'on peut se demander si ce corps dit humain ne l'est pas aussi par le fait non seulement qu'il ressente, mais aussi par le fait qu'il soit capable de paroles qui disent aussi la poésie de l'amour, à l'instar du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire capable d'une invention renouvelée du langage, en un mot, qui soit un être de littérature. La littérature, contrairement à l'information, est cette capacité extraordinaire que le langage a de remettre en mouvement la réalité qui risquerait d'être figée si elle n'était que description et information.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Des gens foutres et des gens probes, le vent je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau.
Brassens, Le Vent, une chanson de 1953, une chanson que nous avons choisie pour la répétition de l'expression « si par hasard » et puis qui mêle la question du hasard, du corps, de l'érotisme. Une expression « si par hasard », très biblique, que l'on trouve dans un verset du Deutéronome « qui kare kan sipor le fanecha baderer bechol etz o ala aretz »« Si par hasard tu rencontres en chemin un nid d'oiseau sur tout arbre ou sur la terre, qu'il s'y trouve des oisillons ou des œufs et que la mer couvre les oisillons ou les œufs, tu ne pourras prendre la mer au-dessus des enfants, tu renverras la mer et alors tu pourras prendre les enfants, cela te fera du bien » et prolongera tes jours. Un texte biblique qui introduit cette notion très étonnante du hasard, si par hasard, en hébreu mikré, qui s'écrit de deux façons, avec un aleph ou avec un hé. Dans les dictionnaires, on trouve mikré avec un hé qui est traduit par hasard, par le mot hasard. Et ici, dans notre verset, c'est qui carré avec un aleph, mais tous les commentateurs, à commencer par Rashi, le Rashbam et Ibn Ezra, expliquent que c'est une rencontre par hasard. Nous vivons dans un monde où les algorithmes ont de plus en plus d'importance, où tout semble prévu d'avance et où le hasard pourrait sembler de plus en plus étranger et absent. Et pourtant, plusieurs auteurs de ce numéro 5 de l'Éclaireur introduisent le hasard dans leurs réflexions, ce qui me fait penser aussi à cette remarque fondamentale que Pierre Darlu, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de génétique des populations humaines au Musée de l'Homme, disait « Trois grands facteurs d'évolution existent, le hasard, le métissage et la sélection naturelle ». Jérémy Haddad, cette question du hasard si centrale dans la réflexion de vos auteurs.
Tout à fait. Beaucoup d'auteurs dans l'éclaireur ont abordé cette question du hasard. Vous connaissez cette célèbre phrase d'Albert Einstein, hein, le hasard, c'est le Dieu qui se promène incognito. Eh bien, je crois que c'est une phrase qui est beaucoup plus profonde qu'elle n'en a l'air. Parce que dans la tradition juive, comme vous l'avez dit, hein, on écrit ça de deux façons, il y a deux sortes de hasard. Le premier hasard, c'est le hasard qui est complètement chaotique. C'est lorsque Dieu, justement, choisit de se retirer complètement du monde, de laisser les choses se faire de façon naturelle. Et c'est un hasard, quelque part, de façon négative. C'est un hasard chaotique qui peut laisser penser que le monde est complètement livré à lui-même. Et ça, c'est le Mikri qui s'écrit avec un ré. Et puis, le deuxième hasard, c'est donc Dieu qui se promène incognito, et donc, d'une certaine façon, c'est un hasard qui échappe aux hommes, et surtout, plus important, c'est un hasard qui échappe au déterminisme. Et c'est un hasard qui est utilisé dans la tradition juive, on le voit à plusieurs reprises, quand par exemple, le jour de la cérémonie de Kippour, il faut choisir entre deux boucs, et ben on procède à un tirage au sort hasardeux. De la même façon, lorsque les 12 tribus doivent entrer en Israël et doivent se répartir la terre, et bien cette répartition se fait notamment grâce à un tirage au sort. Et donc c'est un concept, ce tirage au sort, qui est très intéressant parce que c'est une procédure qui va échapper aux déterminismes sociaux, matériels et technologiques. Et lorsqu'aujourd'hui on dit « nous sommes libres », en réalité beaucoup de gens ont démontré, que ce soit pour des raisons sociales ou que ce soit pour des raisons technologiques, qu'on est beaucoup plus déterminé qu'on en a l'air. Et le moyen d'en sortir, c'est justement par le hasard. Alors, il y a un physicien qui s'appelle Alexis Greenbaum, dans l'éclaireur, qui utilise ce concept-là à propos du dilemme du tramway. Alors, je pense qu'il faut rappeler ce que c'est que le dilemme du tramway. C'est une expérience de pensée théorique qui a été formulée comme ça. Imaginez que vous êtes dans un tramway, que vous allez tout droit, les freins ont complètement lâché. Vous avez seulement la possibilité, éventuellement, de changer de voie. Et puis, dans la voie sur laquelle vous êtes, il y a 5 personnes qui sont en train de faire des travaux. Et vous savez que si vous passez, vous allez tuer les 5 personnes. Et puis, vous avez la possibilité de bifurquer juste avant. Sauf que dans la voie de bifurcation, là, cette fois-ci, il y a une personne qui fait des travaux. Alors, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez continuer et tuer les 5 personnes? Est-ce que vous allez bifurquer, mais en tuant une seule personne? Et donc, c'est évidemment un concept qui a été travaillé par beaucoup de philosophes après sa formulation, avec des variantes parfois, justement, pour le rendre encore plus compliqué. Mais aujourd'hui, il devient extrêmement moderne à cause des voitures autonomes. Les voitures autonomes, c'est les voitures qui aujourd'hui fonctionnent sans conducteur et qui choisissent elles-mêmes, grâce à des algorithmes, de se diriger sur la route. Et la question, c'est que va faire une voiture autonome lorsqu'elle est dans un cas comme ça? Et ce que dit Alexis Greenbaum, c'est que on ne peut pas laisser choisir la machine. C'est pas possible. C'est pas à elle de choisir. Mais quelque part, est-ce que c'est les humains qui vont choisir? Ben, on sait pas très bien non plus, parce que ça oriente un certain nombre de valeurs, de prises de position qui sont évidemment discutables. Alors il propose justement que ce choix de la voiture autonome soit laissé au hasard et donc soit laissé à une procédure aléatoire au niveau des algorithmes. Et là on retrouve, il en donne un exemple encore un peu spécifique dans l'éclaireur, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres exemples dans la tradition où justement on fait appel à cette procédure du hasard, cette procédure aléatoire pour justement sortir d'un certain nombre de déterminismes. Alors, c'est un hasard qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas facile à générer. Lorsque dans un ordinateur, vous codez, vous faites une fonction random, qui dit bah, « donne-moi un chiffre au hasard », en réalité, ce que fait l'ordinateur, c'est qu'il va activer une fonction très compliquée, qui n'est pas complètement hasardeuse, mais qui est très très hasardeuse sur les très très grands nombres. Alors, est-ce que le hasard existe vraiment dans ce monde-là? J'ai eu la chance cet été de visiter l'Institut Weizmann à Rehovot. J'ai visité un laboratoire de physique quantique. Et puis là-bas, les chercheurs m'ont bien confirmé qu'il y avait au moins un endroit dans la nature où il y avait une dimension de hasard, c'est sur l'état quantique des atomes, où là, il y a une incertitude totale qui est complètement hasardeuse. Il a été démontré que c'était quelque chose de complètement hasardeux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les ordinateurs quantiques qui sont en train d'être construits reposent aussi sur cette capacité, d'une part, à calculer de façon parallèle en tirant profit des différents états des électrons, mais aussi à pouvoir donc générer du hasard de façon beaucoup plus forte qu'on ne le fait aujourd'hui.
Alors Henri Atlan, qui est l'un des penseurs les plus importants et les plus originaux et pionniers sur cette question du hasard, On peut citer son célèbre ouvrage en deux volumes intitulé « Les étincelles du hasard », explique dans un interview qu'il donne justement dans ce numéro de l'Éclaireur que pour introduire du hasard dans les algorithmes, il ne parle pas encore des ordinateurs quantiques, il dit « on utilise des décimales du nombre pi ». Je trouve cela particulièrement intéressant quand on sait que la valeur numérique du nom Shaddai, évoquée précédemment, possède une valeur numérique de 314, ce que les kabbalistes ont interprété comme l'équilibre entre le déterminisme et la liberté des êtres et des choses. Et Einstein, à la suite de Hendrik Stöhlum, en a donné une métaphore géographique intéressante. À partir de la longueur des fleuves, il a montré que pi était pour les longs fleuves de plaine le rapport entre la longueur mathématique du fleuve et sa longueur réelle, avec tous les méandres qu'il dessine. Jérémy Haddad, que vous inspire cette remarque sur pi et sur les fleuves
d'Einstein ? Alors évidemment, pi est un nombre qui a passionné l'humanité depuis sa découverte. Vous avez parlé des kabbalistes. Alors, j'ai absolument pas les compétences pour discuter là-dessus, mais il y a quelqu'un de très important qui s'appelle Manitou, qui s'appelle Léon Ashkenazi, qui était en fait un maître de la pensée juive d'après-guerre et qui est cher à mon cœur puisque c'était un éclaireur israélite. Et d'ailleurs, le nom qu'on lui donne, Manitou, c'est son nom de totémisation aux éclaireurs israélites. Et il a fait un long développement sur la droite et le cercle. Pourquoi ? Parce qu'il dit précisément pi, c'est ce qui fait le lien entre la droite et le cercle, on sait, la quadrature du cercle, et puis le fait que pi soit un nombre irrationnel infini, fait qu'il n'y a jamais de rapport complet entre la droite et le cercle. Et il dit, il y a des concepts kabbalistiques qui disent que le cercle fait référence à la nature, parce que c'est une sorte de cercle, c'est une figure parfaite qui fait référence au déterminisme, et la droite, ça fait référence à l'individu, à une forme de liberté. Tout le mystère du monde, dit-il, doit se trouver entre ce rapport entre le cercle et la droite. Si Dieu est tout-puissant, alors quel libre arbitre laisse-t-il à l'homme ? Est-ce que Dieu va s'incarner comme un dieu de la nature, maître des contingences matérielles, ou bien est-ce qu'il va s'incarner comme Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob ? Et ce lien entre le déterminisme et puis la liberté individuelle, il s'incarne dans ce nombre pi. Et je crois que vous l'avez dit, Shaddai, c'est aussi donc ce nom de Dieu qui implique que Dieu s'est retiré du monde, il vaut 314 en valeur numérique. Et donc justement, le mystère du monde, ce lien entre le déterminisme et cette capacité d'action de l'homme, elle s'inscrit dans la capacité de recul de la divinité pour laisser la place à l'homme et donc indirectement dans ce nombre pi.
Alors c'est très intéressant, il faudrait avoir plus de temps pour développer ce magnifique article de Manitou qui s'appelle effectivement « Le cercle et la droite, transcendance et immanence » qui était paru dans la revue Pardès numéro 23, si mes souvenirs sont bons, et qui est véritablement, je pense, un des articles les plus importants de Manitou en général, mais sur cette question en particulier. Et là, vous venez d'évoquer une expression qui me semble extrêmement importante, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas un Dieu impersonnel, c'est un Dieu personnel, un Dieu de chacun. Et dans l'interview qu'il donne dans la revue, Laurent Alexandre présente les limites qu'il ne faut pas dépasser dans le cadre même d'un transhumanisme assumé. Il faut s'assurer, dit-il, de la permanence de trois choses, le corps, le hasard, mais aussi l'individuation. Nous venons de voir la question du corps avec la question de l'érotisme et celle du hasard avec les exemples que vous venez de donner. Qu'en est-il de la question de l'individuation ? Comment, avec les machines toutes programmées de la même façon, peut-on échapper à une pensée commune et des comportements identiques ? Comment garder le sens du jugement de valeur et continuer à exercer au plus juste son esprit critique ? En un mot, comment échapper à l'idéologie ? Comment maintenir au plus juste l'individuation dont parle Alexandre Laurent et semble signifier ce nom « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », Jérémy Haddad.
L'individuation, je crois que c'est un des sujets qui est le plus chéri par la Torah et par la tradition juive. La Torah commence d'ailleurs par le mot « Bereshit », qui commence par la lettre « Bet », valeur numérique 2, qui indique clairement la volonté de placer ce monde comme le refus de le placer sous une forme d'idéologie unique et totalisante. Tout de suite, on nous dit, nous sommes sur Terre absolument pas pour aller chercher une sorte de vérité unique. On est sur Terre pour rechercher quelque part l'altérité. Et très vite dans la Genèse, on va retrouver cela avec l'épisode de la tour de Babel. Ce qui inquiète, c'est pas tant qu'ils essayent d'atteindre Dieu d'une certaine façon, qui est une prétention finalement bien vaine, mais qu'ils s'unissent tous de façon totale, sans aucune contradiction interne. Et donc la punition, mais qui est en fait une bénédiction, c'est la création de plusieurs langues. Pourquoi ? Parce que la création de plusieurs langues vont leur permettre de disposer chacun d'une subjectivité propre. Et cette subjectivité individuelle, elle est partout et elle est mise en avant partout dans la tradition juive, y compris jusqu'à aujourd'hui, dans la façon dont les juifs étudient dans leur maison d'études. Lorsqu'on étudie dans une maison d'études, c'est toujours à deux. D'abord, c'est jamais tout seul. Ensuite, il y a un brouhaha permanent puisque l'idée, c'est justement de se balancer des arguments. Et puis ensuite, c'est pas des arguments d'autorité de tel et tel sage qu'on connaîtrait par cœur, qu'on se lance à la figure. C'est des arguments subjectifs, ceux qui sont issus de notre propre intérêt. Et donc, dans les endroits où j'ai étudié, par exemple, dans le lieu d'études de Gérard Zizek, qui fait un article dans la revue, évidemment, on étudie avec Rashi. Donc Rashi, principal commentateur de la Torah, champenois du Moyen-Âge. Mais on disait toujours « Roshi avant Rashi ». Roshi, ça veut dire « ma tête ». Et donc avant d'aller voir ce que dit Rashi, je vais d'abord, moi, essayer de me dire qu'est-ce que je comprends de ce texte. Et je crois que cette expression-là, elle dit bien à quel point la subjectivité individuelle, elle est au cœur, quelque part, de la tradition juive et de la volonté de ne pas se soumettre à une forme d'idéologie unique.
Alors la question se repose, comment résister à l'uniformisation que proposent les machines dans la pensée ? Est-ce que justement ce que vous dites, c'est que le secret d'assumer un transhumanisme mais qui ne soit pas destructeur de l'homme, c'est l'étude, l'interprétation, le ridouche, la nouveauté, vivre, c'est naître à chaque instant dans sa subjectivité, dans son invention. Quand je parlais tout à l'heure de littérature, la littérature, justement, un roman, il est unique et c'est une invention. Un homme littéraire, un romancier, c'est quelqu'un qui a la capacité de créer une histoire unique, une histoire subjective, et en plus il a son style, on le reconnaît immédiatement. Est-ce que, je dirais que de la même façon que vous avez commencé avec le Shabbat comme le futur de notre société, est-ce que l'étude en chavruta, en dialogue avec cette subjectivité assumée dans ces échanges n'est pas le secret de notre futur pour la société, Jérémy Haddad?
Alors évidemment, moi, c'est une conviction que j'ai de façon très profonde, parce que je crois que ce qui menace l'homme, c'est que l'homme lui-même pense qu'il y a une fin à l'homme, et qu'il y a une fin de l'histoire, qu'il y a une fin du monde un jour. Or, lorsqu'on est deux et qu'on n'est pas d'accord, bah, ça peut jamais se terminer. Et ce qui est précisément là en jeu, c'est cette conscience que nous ne sommes pas tout seuls, mais pas simplement moi, mais que l'humanité, finalement, n'est pas seule, elle est diverse. Et que deuxièmement, elle est tellement vivante qu'elle va inventer des choses de façon infinie. Et on le voit tout au long de l'étude juive. Si ce que les juifs appliquaient aujourd'hui est exactement ce qui existait du temps du deuxième temple, on serait probablement plus là. Si les juifs sont encore là, c'est parce qu'ils ont su réinventer de façon systématique, avec des combats argumentés et argumentaires entre les grands sages de la tradition, parfois de façon extrêmement violente. Hein. On se souvient dans l'histoire du conflit entre les Haredim, les Mitnagdim de Lituanie et puis les Hassidim de Pologne, qui avaient une vision totalement différente, mais qui a produit quelque chose d'extrêmement fructueux.
À ces trois limites, corps, individuation et hasard, ne peut-on pas en rajouter une quatrième, celle de l'appartenance à la dimension terrestre ? L'homme augmenté reste un homme inscrit dans son environnement, qui est la terre. Le verset du nid d'oiseau cité plus haut le suggère. Si par hasard un nid d'oiseau en chemin sur la terre ou sur tout arbre, terre et enracinement dans la terre, une idée qui me fait penser à cette phrase de Victor Hugo que j'ai entendue récemment rapportée par Jean de Loisy, citant Georges Didier Berman, « Le sublime est en bas ». Jérémy Haddad.
Je vais vous répondre par deux choses très rapidement. D'abord, le texte lui-même de la Torah le dit, lo bashamayim hi, la Torah n'est pas au ciel. C'est-à-dire, c'est pas une sorte de d'éther qu'on chercherait à atteindre. C'est réellement la façon de sanctifier l'existence prosaïque de la vie humaine, y compris dans ce qu'elle a de plus basique, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire la vie quotidienne. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous savez que le judaïsme n'est pas exempt de cette tentation de la fin de l'histoire, puisqu'il y a évidemment une promesse messianique. Eh bien, il y a un texte dans le Talmud qui dit la chose suivante. Si tu es en train de planter un arbre et qu'on te dit que le Messie est en train d'arriver, surtout, tu dois finir de planter l'arbre avant d'aller voir le Messie. Et je crois que ce texte-là nous dit bien qu'il y a une volonté de rester peut-être très terre-à-terre, de rester très attaché à ce qui existe sur la terre, et puis évidemment après de se préoccuper de ce qui adviendra demain.
Merci Jérémy Haddad pour cette très belle conversation et ces deux semaines passées en votre compagnie. Je renvoie les auditeurs à ce beau et riche numéro 5 de la revue L'Éclaireur qui est consacré à toutes les questions que nous avons évoquées et d'autres encore dont je rappelle le titre « Le retour du golem, un regard juif sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle ». Pas moins de 22 prestigieux contributeurs, une revue très agréable à lire, tant par son contenu que sa mise en page, aérée, dynamique et pleine d'inventions, avec cette particularité exceptionnelle de s'adresser à la fois à des adultes qu'à des adolescents, ce qui reflète la vocation des EI, une pensée en mouvement pour une jeunesse en mouvement, une revue disponible depuis le 2 septembre, 134 pages de plaisir et de lecture. Encore merci Jérémy Haddad.
Merci beaucoup.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wacknin. À la prise de son aujourd'hui Alain Joubert, à la réalisation très attentive au monde des robots, Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité et la revue L'Éclaireur sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique, Koltouv, le Hitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Thank you.